Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur le podcast de voixpoétique.com. Je suis David et aujourd'hui je vais vous partager un poème qui témoigne d'une expérience spirituelle brûlante, d'une possession divine et poétique qui transforme l'être en brasier vivant. Mon poème, Lumière voyageuse, raconte la cohabitation tumultueuse avec cette force innée qui nous habite, nous transcende et parfois nous consume. Ce texte est né d'un moment d'incandescence intérieure, de ces instants où l'on sent en soi une présence plus grande que soi, une énergie qui danse sa propre danse, indifférente à nos limites humaines. C'est le témoignage de cette expérience à la fois extatique et douloureuse, où l'inspiration poétique, la fureur créatrice, ou peut-être l'âme elle-même, se révèle comme une entité autonome, sauvage, indomptable. En écrivant ces vers, j'ai voulu capturer cette sensation d'être habité par une lumière nomade, une flamme errante, qui fait de nous son foyer temporaire tout en gardant sa liberté absolue de mouvement. C'est un poème sur la possession créatrice, sur le feu sacré qui brûle en nous, sans nous consumer totalement, nous laissant témoins éblouis de notre propre embrasement. Permettez-moi de vous lire ce texte, en tout premier, dans son intensité première, dans sa violence lumineuse. Il y a ici même une chose qui vit en moi. Elle tourne, virevolte, danse, saute et vole enfin. Moi, je la regarde, éblouie, désemparée, depuis la terre sourde de mes eaux plantées. Toujours elle me revient, l'enragée, la folle. Ses semelles d'écorce craquent sur les étoiles, ses ailes de feu brûlent, les horizons bleus, son corps de lumière éventre les cieux. Avec elle, je sens le goût du sel, la mer. Nos vies éclatent d'épices en colère. Parfum de nos pays déchirés, sanglants. Parfum du monde en feu sous le vent. Ô chose terrible et belle qui me dévore. Toi qui danses dans mes chairs encore. Tu es la soif, tu es la rage, tu es l'éveil. Et moi, je brûle sous ton soleil vermeil. Il y a ici même une chose qui vit en moi. Cette exclamation inaugurale pose d'emblée le paradoxe central. Quelque chose vit en moi, qui n'est pas moi. L'emploi du terme « chose » marque une distance, une impossibilité de nommer précisément cette présence. Ce n'est ni une personne, ni un esprit, ni une force, c'est une chose innommable dans sa radicalité. J'insiste sur « ici même », qui ancre cette expérience dans l'immédiat, dans le présent absolu. Ce n'est pas un souvenir, pas une métaphore, c'est une réalité vécue dans l'instant de l'énonciation. Le point d'exclamation traduit la stupeur, l'émerveillement, mêlé d'effroi devant cette découverte. Cette reconnaissance d'une altérité radicale au cœur même de l'intime évoque le daimon socratique. Cette voix intérieure, qui n'est pas la nôtre, ou le concept jungien du soi, cette totalité psychique qui dépasse le moi conscient. Mais ici, cette présence est plus sauvage, plus anarchique que ces figures philosophiques ou psychologiques. Elle tourne, virevolte, danse, saute et vole enfin. Cette accumulation de verbes, de mouvements, dessine une chorégraphie frénétique. La progression va du circulaire, tourne, virevolte, au vertical, saute. Puis à l'aérien, vol, traçant une spirale ascendante qui échappe progressivement à la gravité. Quand je dis « enfin », je suggère une libération longuement attendue, comme si cette chose avait été longtemps contrainte avant de pouvoir déployer pleinement son mouvement. Cette danse n'est pas harmonieuse, mais elle est plutôt chaotique, dionysiaque. Elle relève de la transe plus que du ballet. Cette chorégraphie évoque les derviches tourneurs, dont la danse spiralée vise l'union mystique, mais aussi la danse de Shiva Nataraja, qui crée et détruit les mondes par son mouvement perpétuel. La lumière voyageuse participe de cette énergie cosmique qui ne peut rester immobile. Alors, moi, je la regarde, éblouie, désemparée, depuis la terre sourde de mes eaux plantées. Il y a ici un contraste que je trouve saisissant entre la mobilité frénétique de la chose et l'immobilité même du témoin. Le « je » devient spectateur de son propre théâtre intérieur, assistant impuissant à cette danse qui se déroule en lui sans lui. La terre sourde de mes eaux plantées transforme le corps en sol, en humus. Les eaux deviennent racines, ancrage terrestre, qui contraste avec l'envol de la lumière voyageuse. Cette image évoque l'arbre enraciné dans la terre, mais dont la cime touche le ciel, métaphore traditionnelle de l'homme entre terre et ciel. L'éblouissement et le désemparement caractérise l'état de celui qui assiste à une théophanie, une manifestation du divin, qui dépasse les capacités de compréhension humaine. C'est l'état de Moïse devant le buisson ardent, de Paul sur le chemin de Damas. La stupeur sacrée face à l'irruption de l'absolu dans le relatif. Je scande à un moment donné l'enragé, la folle. Ces épithètes violente, personnifie la lumière voyageuse en figure féminine de la possession. L'enragé évoque la rage au sens ancien, la fureur sacrée, la mania platonicienne qui saisit les poètes et les prophètes. La folle renvoie à cette sagesse qui paraît folie aux yeux du monde. Cette féminisation de la force intérieure évoque la Shakti tantrique, l'énergie féminine cosmique qui anime toute manifestation, ou la Sophia gnostique, la sagesse divine, parfois représentée comme folle aux yeux des hommes. C'est aussi l'anima jungienne dans sa forme la plus sauvage et indomptée. Le point d'exclamation après la folle, pour ceux qui le lisent sur voiepoétique.com, exprime à la fois l'exaspération et la fascination. Cette force est insupportable et indispensable, destructrice et créatrice, aliénante et libératrice. Ces semelles d'écorce craquent sur les étoiles. Cette image synesthésique extraordinaire fait entendre le son de pas sur les astres. Les semelles d'écorce, matière organique terrestre, marche sur les étoiles, créant un court-circuit entre le végétal et le sidéral. Ses ailes de feu brûlent les horizons bleus et ma créature devient hybride. Elle a des pieds pour marcher et des ailes pour voler. Ses ailes ignées consument les limites mêmes du visible, transformant les horizons en brasier. Le bleu du ciel devient combustible pour ce feu dévorant. Son corps de lumière éventre les cieux. Il y a là une violence extrême de cette image où le ciel est éventré comme une bête. La lumière devient l'âme. Le corps immatériel devient arme, capable de déchirer le tissu même du cosmos. Et cette violence évoque les apocalypses où les cieux se déchirent pour révéler l'au-delà. Avec elle, je sens le goût du sel, la mer. La présence de la lumière voyageuse transforme la perception, rendant presque gustative l'expérience existentielle. Le sel évoque les larmes, la mer, mais aussi la sagesse, le sel de la terre évangélique. La mer renvoie à la bile noire de la mélancolie, mais aussi à l'amertume nécessaire de certaines médecines spirituelles. Et puis nos vies éclatent d'épices en colère. C'est une image où les épices deviennent explosives, où les saveurs se transforment en émotions violentes. Les épices, traditionnellement associées aux routes commerciales, aux échanges entre civilisations, deviennent ici des métaphores de vie intense, parfumée de rage et de passion. Cette transformation des épices en colère suggère que l'intensité sensorielle et l'intensité émotionnelle sont indissociables dans l'expérience de la possession par la lumière voyageuse. Parfum de nos pays déchirés sanglants, parfum du monde en feu sous le vent. Ici, mon poème s'élargit soudain, du personnel au collectif. Du mystique à, pourrait-on dire, au politique. Les pays déchirés évoquent les guerres, les frontières arbitraires, les peuples divisés. Le parfum devient vecteur de mémoire collective, porteur des souffrances historiques. C'est le parfum du jasmin, des révolutions arabes, le parfum de la poudre des conflits, le parfum métallique du sang versé. La lumière voyageuse porte en elle toute la violence du monde. Le monde en feu sous le vent transforme la planète entière en brasier, attisé par les vents de l'histoire. Cette vision apocalyptique n'est pas projection future, mais constat présent. Le monde brûle déjà, et la lumière voyageuse en est à la fois témoin et participante. Ô chose terrible et belle qui me dévore, l'apostrophe lyrique marque un tournant dans le poème. Le je s'adresse directement à cette force dans une invocation qui mêle terreur et admiration. La beauté terrible évoque le concept esthétique du sublime selon Burke ou Kant. Ce qui nous dépasse et nous écrase tout en nous élevant. La dévoration n'est pas destruction, mais plutôt transformation, comme le feu qui consume le bois pour produire lumière et chaleur. La lumière voyageuse dévore le moi pour produire poésie et vision. C'est le sacrifice nécessaire de l'artiste qui va accepter d'être consumé par son art. Toi qui danses dans mes chairs encore, eh bien, le pluriel de chair suggère une multiplicité, comme si le corps n'était pas unifié, mais composé de territoires distincts où la lumière pourrait danser. Le « encore » implique une durée, une persistance de cette danse, malgré l'épuisement possible. Cette danse, dans la chair, évoque les transes de possession, où le corps devient instrument d'une force qu'il dépasse. C'est le corps du chaman traversé par les esprits, le corps du mystique visité par l'extase, le corps du poète saisi par l'inspiration. La chair devient piste de danse pour cette lumière nomade, un espace où s'exprime une chorégraphie qui n'obéit pas aux lois de l'anatomie ordinaire. Tu es la soif, tu es la rage, tu es l'éveil. Ici, il y a une triple identification qui dessine le portrait de la lumière voyageuse. La soif représente le désir inextinguible, la quête perpétuelle qui ne trouve jamais son objet définitif. La rage incarne la colère sacrée contre l'endormissement, contre l'acceptation passive du monde tel qu'il est. L'éveil, quant à lui, couronne cette trinité comme but et moyen à la fois. Cette triade évoque les trois poisons du bouddhisme, avidité, colère, ignorance, mais inversée, transformée en force d'éveil. La soif devient aspiration spirituelle, la rage devient énergie de transformation, et ensemble, ils produisent l'éveil de la conscience. Et moi, je brûle sous ton soleil vermeil. Ici, le poème se clôt sur cette image, de combustion solaire. Le vermeil, couleur du mercure alchimique, de l'aurore et du sang, synthétise le thème du poème. Transformation, naissance et sacrifice. Le « je » ne résiste plus, mais accepte de brûler. Ce n'est plus la dévoration subie, mais plutôt la combustion acceptée. Le soleil vermeil n'est pas le soleil ordinaire, mais une sorte de soleil intérieur, un soleil mystique, sous lequel on brûle sans se consumer totalement. Cette image finale évoque le phénix qui renaît de ses cendres, mais ici la renaissance n'est pas mentionnée. Nous restons plutôt dans le moment de la combustion, dans cet instant éternel, où l'être accepte sa transformation par le feu. La structure de mon poème dessine une progression de la reconnaissance à l'acceptation. Les quatre quatrains forment comme les quatre murs d'un atanor alchimique où s'opère la transformation. Chaque strophe intensifie la chaleur, présentation de la force, description de sa puissance cosmique, évocation de ses effets sensoriels et historiques, puis fusion finale dans le feu. Cette architecture me rappelle bien tout simplement les quatre éléments, les quatre directions, les quatre phases de la transformation alchimique. Le poème lui-même devient un four et se transmute la matière verbale en un or poétique. Ce poème, La lumière voyageuse, peut se lire à mon sens comme une métaphore de la conscience elle-même. Cette lumière qui éclaire tout sans pouvoir s'éclairer elle-même, qui voyage à travers les expériences sans jamais réellement se fixer. C'est la conscience pure de la phénoménologie, excusez-moi, le témoin védantique, la buddhata bouddhiste. Mais cette conscience n'est pas une sereine contemplation. Elle est force active, elle est transformatrice, et elle est même parfois destructrice. Elle ne se contente pas d'observer, elle danse, elle brûle, elle éventre. C'est une conscience dionysiaque plutôt qu'apollinienne. Une conscience qui participe plutôt qu'elle ne contemple. Le titre que j'ai choisi, Lumière voyageuse, suggère que le voyage n'est pas un accident, mais l'essence même de cette lumière. Elle ne voyage pas, elle est le voyage. Cette perpétuelle itinérance évoque le concept deleuzien du nomadisme, ce mode d'être qui refuse la sédentarisation, la fixation, la territorialisation. La lumière voyageuse est rhizome plutôt que racine, devenir plutôt qu'être, processus plutôt que substance. Elle incarne la philosophie du mouvement perpétuel, du pantarei héraclitéen, où tout coule et où rien ne demeure. Comment une lumière voyageuse peut-elle habiter en nous? Comment le nomade peut-il avoir une demeure? Ce paradoxe structure finalement tout le poème. La réponse semble être que nous ne sommes pas la demeure, mais l'étape, non pas la destination, mais plutôt le passage. La lumière voyageuse fait de nous son campement temporaire, son caravanserai. Elle s'arrête en nous le temps de reprendre des forces, de danser sa danse. Puis elle repart vers d'autres horizons. Même si elle nous revient toujours, comme le dit le poème. L'ensemble du poème évoque une expérience chamanique, la possession par un esprit de feu, la vision cosmique, marcher sur les étoiles, la synesthésie, goûter les émotions, la connexion avec les souffrances collectives, le pays déchiré. Ici, en tant que poète, je deviens chaman, malgré moi. Traversé par des forces que je ne contrôle pas, mais que je dois finalement apprendre à accueillir. Et la poésie devient alors non pas une expression personnelle, mais plutôt une transmission d'une vision qui dépasse le personnel. Il y a une dimension profondément érotique aussi également dans ce poème, non pas au sens génital, mais au sens d'éros, comme force cosmique, de liaison et de création. La dévoration, la danse dans les chairs, la combustion sous le soleil, tout évoque une union passionnée entre moi en tant que poète et cette force qui m'habite. Cette érotique mystique me rappelle d'ailleurs le Cantique des Cantiques, le poème de Jean de la Croix, la poésie soufie. L'amour humain devient métaphore de l'amour divin, mais ici l'amour est violent, dévorant, consumant. C'est l'amour-passion des troubadours poussé à son paroxysme mystique. L'évocation des pays déchirés, sanglants, introduit une dimension politique que, en l'écrivant, je n'attendais pas forcément. La lumière voyageuse n'est pas pure spiritualité détachée du monde, elle porte en elle les blessures de l'histoire, les violences collectives. Cette politisation du mystique suggère à mon sens que l'éveil spirituel ne peut ignorer les souffrances du monde, que la transformation personnelle est indissociable de la transformation collective. Le feu intérieur est aussi feu révolutionnaire, rage contre l'injustice, soif de transformation sociale. Mon poème opère une véritable alchimie, encore une fois, d'essence. Le goût, sel, amer, épice, l'odorat, les parfums, la vue, lumière, feu, l'ouïe, les craquements, le toucher, les brûlures. Tous les sens sont convoqués et transformés ici. Cette synesthésie généralisée évoque l'état de conscience altéré où les frontières entre les sens s'efface, où l'on peut goûter les couleurs et presque voir les sons. C'est l'état du poète en transe créatrice, du mystique en extase et du chaman en voyage. Mon poème développe une véritable philosophie de l'embrasement. Brûler n'est pas mourir, mais vivre intensément. Le feu n'est pas destructeur, mais il est plutôt transformateur. La consommation n'est pas fin, mais c'est plutôt une transfiguration. Cette philosophie ignée s'inscrit dans la lignée d'Héraclite même, pour qui le feu était l'élément primordial. De Bachelard, qui voyait dans le feu le principe de transformation poétique. De Teilhard de Chardin, qui parlait du feu créateur à l'œuvre dans l'évolution. Et le poème, aussi, entre position de témoin, je la regarde, en position d'acteur, je brûle. Cette oscillation révèle la double nature de l'expérience mystique. On est à la fois sujet et objet de la transformation, observateur et participant. Cette dualité évoque le concept védantique du Sakshi, le témoin immuable qui observe les transformations, tout en y participant. Mais ici, même le témoin finit par brûler, suggérant qu'aucune position n'est à l'abri de la transformation radicale. Mon corps de poète devient un cosmos. Les eaux sont terre, la lumière voyageuse parcourt les étoiles, les horizons brûlent en moi. Cette cosmologisation du corps évoque la vision tantrique où le corps humain contient tous les mondes où les chakras correspondent aux planètes. Le microcosme corporel reflète et contient le macrocosme universel, la danse de la lumière voyageuse en nous et la danse même de l'univers. Ces feux sont les feux des étoiles. Sa rage est la rage créatrice du cosmos. J'ai voulu que mon poème « Lumière voyageuse » nous confronte finalement à la réalité la plus intense de l'expérience créatrice et mystique. Nous sommes habités par une force qui nous dépasse, qui nous transforme, qui parfois même nous consume. Cette force, qu'on l'appelle inspiration, kundalini, esprit saint ou simplement vie, ne nous appartient pas. Elle voyage à travers nous, faisant de nous les instruments temporaires uniquement de sa danse éternelle. L'intérêt du poème est, à mon sens, de ne pas chercher à domestiquer cette force, à la réduire à des catégories connues. Elle reste chose, innommable, terrible et belle, enragée et folle. Je ne cherche pas à la comprendre, mais à témoigner de sa présence, de sa danse et de son feu. L'acceptation finale, je brûle sous ton soleil vermeil, ce n'est pas une résignation, mais plutôt une reconnaissance de notre nature profonde. Nous sommes faits pour brûler, non pas au sens de nous détruire, mais au sens de devenir lumière nous-mêmes. La lumière voyageuse nous révèle que nous ne sommes pas simplement chair plantée dans la terre, mais aussi feu capable de danser sur les étoiles. En partageant ce poème avec vous aujourd'hui, j'espère avoir transmis quelque chose de cette brûlure créatrice, de cette rage lumineuse qui nous traverse tous parfois. Puissions-nous reconnaître en nous cette lumière voyageuse, l'accueillir dans toute sa sauvagerie, danser avec elle même quand elle nous brûle. Car c'est dans cette combustion acceptée que nous devenons vraiment vivants, vraiment créateurs, vraiment éveillés. La lumière voyageuse n'est pas notre ennemi, mais plutôt notre nature la plus profonde, celle qui refuse l'engourdissement, qui exige l'intensité, qui transforme notre existence en œuvre d'art incandescente. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du feu intérieur que je souhaite vraiment que votre propre lumière voyageuse trouve en vous l'espace pour danser, même ne serait-ce qu'un temps, sa danse sauvage. Et que vous ayez le courage de brûler, vous aussi également, sous son soleil vermeil. Sachant que cette combustion n'est pas fin, mais plutôt un commencement. C'est pas une mort, mais c'est plutôt une naissance à une vie plus ardente et que je vous souhaite plus vraie. C'était David pour le podcast de voixpoétiques.com.